Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est, ce qu'on appelle le modèle français en matière de cinéma. Alors, il faut savoir que je commence mon histoire après-guerre. Avant-guerre, il y a eu des trucs, mais bon, après-guerre, pas la guerre de 14-18, hein, la guerre de 39-45. Il faut voir qu'à l'époque, dans le paysage cinématographique européen, les premiers de très loin en termes de fréquentation, c'était les Anglais. Derrière, il y avait les Italiens. Et ensuite, il y avait les Français. Donc les Français étaient troisièmes. Et maintenant, ils sont premiers. Ils sont premiers parce que les autres ont chuté beaucoup plus qu'eux. Voilà. Et je vais vous dire pourquoi les autres ont chuté très fort et pourquoi nous, on a chuté moins fort, passant comme ça de la troisième à la première place au niveau européen et disons deuxième place mondiale si on exclut l'Inde, parce que l'Inde a un système tout à fait particulier dans la production et en plus un système où les films s'exportent, mais pour des communautés très, très ciblées. Donc après-guerre, et ça nous ramène à une question dont j'ai parlé la dernière fois. Vous savez qu'il y a eu le plan Marshall pour la reconstruction de l'Europe avec des financements américains. Et dans le cadre du plan Marshall, les Américains, comme toujours, ont fait une politique en faveur de leur cinéma et de leur audiovisuel. Et ils avaient beaucoup de films qui étaient disponibles, puisqu'en France, pendant la guerre, les films américains n'étaient pas visibles. Donc ils avaient 4 ou 5 ans de production à déverser sur la France et sur les autres pays européens. À l'époque, en France, il y avait un système qu'on appelle le contingent, c'est-à-dire qui existe encore, je crois qu'il existe encore en Inde, peut-être en Chine. Ce sont des systèmes qui limitent le nombre de films que vous pouvez diffuser. Et c'était les films qu'on peut diffuser en version française, bon, parce qu'il n'y avait pas de contingent pour les films sous-titrés. Mais à l'époque, le sous-titrage n'a pas l'importance qu'il a pris maintenant pour les films d'art et essai. Et donc, les Américains ont dit, en contrepartie de l'aide qu'on va apporter aux pays européens et à la France pour se reconstruire, on demande la suppression des contingentements. Et du contingent. Et il y a eu des négociations entre Léon Blum, qui à l'époque devait être à l'économie, et puis les responsables américains de ces questions. Et ces négociations ont abouti à la suppression du contingent, qui ont été remplacés, ils ont été remplacés par un système de quotas à l'écran. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que ce système existe toujours dans les textes. Normalement, les exploitants doivent passer 5 semaines sur 13 par trimestre des films. Alors, au début, c'était français, maintenant c'est européen, parce que si on disait français, ça serait contraire au principe du traité de Rome. Mais c'est une réglementation qui, en fait, globalement est respectée, mais n'est pas respectée salle par salle. Et ça a suscité un vif émoi, ces négociations, ces accords qui étaient les accords Bloomberg, ont suscité un vif émoi dans le cinéma français. Il y a eu des manifestations avec Jean Gabin, Michel Morgan qui défilaient. Et le gouvernement, à l'instigation d'un producteur qui s'appelait Henri Deutschmeister, a eu l'idée géniale de créer une taxe, de créer un fonds de soutien avec une taxe sur toutes les entrées en salle de cinéma dont le retour de taxe n'irait qu'au film français. Et ça, c'est l'idée de base du compte de soutien qui ensuite, et je vous raconterai l'histoire, s'est développé. Et ce système-là, c'est le principe du judo. C'est le judo. Vous utilisez la force de l'adversaire pour... excusez-moi. Vous utilisez la force de l'adversaire pour le faire tomber. C'est ça le principe du judo. Et donc l'idée était que, comme il y aurait beaucoup de films américains et qu'ils auraient une part de marché importante dans, dans les premiers temps de l'après-guerre, puisqu'ils avaient beaucoup de films à diffuser et que le cinéma français était exsangue, puisqu'il n'avait plus de moyens matériels. C'était compliqué de trouver la pellicule, de reconstituer les forces de production. On disposerait de l'argent pour justement relancer la machine du cinéma français. Et c'est comme ça qu'on a créé cette taxe qui s'appelle la TSA, dont le taux est aux alentours de 11%. Je dis aux alentours parce que, comme il y a des paliers en fonction des prix des billets d'entrée dans les salles de cinéma, le taux s'ajuste en fonction du prix moyen du billet dans chaque salle. On a créé cette taxe et on a créé le compte de soutien au cinéma. Alors, au début, cette taxe, le produit de cette taxe, n'allait qu'aux producteurs. Et puis, les exploitants ont protesté. Et après, je crois, 2 ou 3 ans, on a créé un retour de taxe au bénéfice des exploitants. Et puis, beaucoup plus tard, une vingtaine d'années plus tard, on en a aussi fait bénéficier les distributeurs. Et puis, à partir de là, Malraux est arrivé, il a créé l'avance sur recette des systèmes d'aide sélective, alors qu'au départ, les retours de taxes étaient automatiques. Et le principe, à la fois pour les producteurs, les distributeurs, les exploitants, c'est que la taxe qui est générée par l'exploitant, par le producteur de films français, par le distributeur de films français, avec des taux de retour qui en général sont dégressifs en fonction du chiffre d'affaires, cette taxe est mise sur un compte au nom de l'exploitant, du producteur, du distributeur, et lui permet pour le producteur de réinvestir dans un film, donc c'est une aide automatique, pour le distributeur de réinvestir dans les frais de distribution et éventuellement les minima garanties qu'il va verser au producteur, les minima garanties qui sont une avance sur la recette qui vient des salles, et aux salles pour moderniser leur exploitation. Et c'est pour ça, et grâce à ce système, que vous comprenez assez facilement que un producteur qui fait un film au début qui a un succès en salle, eh bien, il a de l'argent pour financer le prochain film. Et l'avantage du système, c'est que on peut l'intégrer dans les calculs économiques, parce que comme c'est une aide automatique, si vous calculez ou vous prévoyez, on se rend toujours dans le cinéma, mais que vous allez faire 1 million d'entrées en salle, vous pouvez prévoir votre taux de retour. Et pour les exploitants, comme eux, ils sont moins dépendants de l'aléa, naturellement, film par film, ils savent à la fin de l'année combien ils auront d'argent pour moderniser leur salle. Et donc, ce système, qui est une sorte d'auto-épargne de la profession, alors, c'est payé par le public des salles de cinéma, mais comme c'est pris sur la recette, au fond, c'est chacune des parties prenantes qui récupère sa part, à l'exception des Américains, puisque les films américains financent le compte de soutien, mais il n'y a pas de retour, bien évidemment, pour les producteurs américains. Et donc, c'est ce système-là qui a été la base de ce qu'on a appelé la politique cinématographique française. Et beaucoup d'autres pays, ensuite, ont tenté de mettre en place des taxes sur les billets d'entrée pour financer leur cinéma, mais très peu ont réussi parce que, évidemment, les Américains ont tout fait dans les pays pour faire pression et empêcher de tels systèmes d'exister. Ce système a fonctionné avec le seul financement de la salle de cinéma jusqu'en 1986. En 1985, il y a un ministre de la Culture que tout le monde connaît, Jacques Lang, le grand Jacques, qui a eu l'idée absolument géniale de dire il ne faut pas seulement que les salles de cinéma participent au financement du compte de soutien, il faut aussi faire participer la télévision. Et à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Il y avait une télévision commerciale, c'était Canal+, qui avait été lancée en 1984, et il n'y avait pas de télévision hertzienne en clair privée. Il n'y avait que les chaînes du service public. Et donc, il a réussi à obtenir l'accord. Alors, comme ça enlevait de l'argent au service public, puisque la taxe était prévue la première année en 86 à hauteur de 4,5% des recettes des télévisions, portée en 87 à 5,5%. Il a obtenu l'accord de son collègue ministre de la Communication, qui était Georges Filliou, pour créer le système. Donc, le système pouvait se faire. Et pour Canal+, qui venait de se créer, il y a eu une astuce fiscale qui a été faite. C'est qu'à l'époque, la TVA de Canal+, était une TVA, je crois que le taux devait être de 18 ou 19. Il y avait une TVA au taux normal. Et ils ont considéré que Canal+, était un produit de première nécessité et que donc ils pouvaient bénéficier de la TVA auto-réduit au taux de 5,5. Donc vous voyez bien qu'André Rousselet, qui était à l'époque le PDG de Canal+, il faisait une bonne affaire, puisqu'au lieu de payer sur ses abonnements une TVA au taux de 18,5, il payait 5,5% de contribution au compte de soutien, 5,5% de TVA, et donc il était gagnant. C'est pour ça qu'à l'époque, Canal+ n'a pas protesté contre l'institution de cette taxe. Et voilà. L'année suivante, les socialistes ont perdu le pouvoir. Est arrivé le gouvernement à l'époque de Jacques Chirac, et Mitterrand étant toujours président de la République. Et ils ont décidé de privatiser TF1 et de lancer des chaînes privées. Et donc, ces chaînes privées sont arrivées. Mais comme la taxe existait déjà, elle a été maintenue, ça faisait partie en quelque sorte du contrat de privatisation de TF1, la mesure ayant été créée par la gauche et non remise en cause par la droite, elle est devenue finalement parfaitement consensuelle. Et c'est ça qui a marqué l'essor du compte de soutien. Actuellement, dans le compte de soutien cinéma, vous devez avoir un peu plus de 100 millions d'euros qui viennent des salles de cinéma, et vous en avez 600 qui viennent du système audiovisuel. Alors après, on a perfectionné, après avoir fait payer la télé, ce qui a permis d'augmenter les ressources pour le cinéma, mais aussi de créer une deuxième section du compte de soutien, une section audiovisuelle qui finance la création audiovisuelle, c'est-à-dire les téléfilms et les documentaires de création. Donc, on est passé à une sensible augmentation de ces ressources. Ensuite, c'était Bérégovoy, donc c'était... Oh là là, j'ai plus les dates. On a taxé la vidéo, on a créé une taxe de 2% sur la vidéo. Ensuite, la taxe a été étendue à la VOD. Et plus récemment, il y a 4 ans, on a créé la taxe sur les offres triple play des fournisseurs d'accès Internet, c'est-à-dire pour la partie audiovisuelle des services délivrés par les opérateurs de télécom. C'est d'ailleurs cette taxe qui fait l'objet actuellement de contentieux auprès de Bruxelles, qui n'a pas validé certaines modifications de taxes, ce qui fait que le CNC en ce moment perd 10 millions d'euros par mois à cause des conneries, je le dis, de Bruxelles. Bon. Et donc ce compte de soutien, qui était à peu près de 100 millions à l'époque d'euros, est maintenant de 700 millions d'euros. Alors l'avantage, premier avantage du système, c'est que vous avez un financement qui repose sur l'activité du secteur. Les salles, la télé, le DVD, la vidéo à la demande, les développements audiovisuels, des fournisseurs d'accès à Internet ou des opérateurs comme Canal Satellite ou des réseaux câblés. Et que le secteur audiovisuel a une croissance beaucoup plus importante que le PIB et beaucoup plus importante que le budget de l'État. Donc il y a eu des moyens mis à la disposition du cinéma et de la création audiovisuelle qui ont augmenté beaucoup plus vite que les ressources publiques. Deuxième avantage, comme ce sont des taxes parafiscales, vous ne dépendez pas du bon vouloir du ministre du budget. Et les années où on veut faire des économies, où on veut remettre en cause certains financements, parce qu'il faut, par exemple, réduire, comme en ce moment, la dette publique, normalement, vous n'êtes pas touché. Donc c'est un financement qui est un financement parafiscal, et ce n'est pas un financement de l'argent qui vient directement du budget de l'État et qui proviendrait des crédits du ministère de la Culture. C'est un financement autonome. Alors c'est ce financement autonome qui, en ce moment, d'ailleurs, est remis en cause ou critiqué par la Cour des comptes, ou qui avait été remis en cause depuis 2 ans, puisqu'on avait décidé, il était décidé par le Parlement, décréter une partie des excédents de ressources que produisaient les taxes pour le CNC. Cette année, par exemple, le gouvernement a supprimé l'écrêtement, c'est-à-dire toutes les ressources du CNC iront bien au CNC, mais comme le CNC avait des excédents de recettes, il a ponctionné 150 millions d'euros. Donc il y a 150 millions d'euros qui étaient dans les caisses du CNC et qui étaient destinés normalement à financer la numérisation des films, puisque si vous voulez avoir un développement de l'offre sur Internet, il faut bien évidemment numériser les films pour les rendre accessibles par les réseaux de télécommunications. Et cet argent, hop, il a été piqué et il est chez Cahuzac. Bon, voilà. Donc, mais en échange, il n'y a plus d'écrêtement. Donc, à part ces petites discussions, l'avantage du système, vous voyez tout de suite, c'est qu'il est autonome et qu'il dispose de ses ressources propres et non pas des ressources provenant du budget de l'État. Et c'est très important en période de crise. Par exemple, ces 2 dernières années, là, j'ai été il y a 4 mois en Espagne, par exemple, le cinéma espagnol a vu ses crédits réduits de 40%. Et la TVA sur les salles a été portée de 8-9% à 21%. Donc ça fait quand même un choc fiscal important pour le cinéma. En France, ils ont un peu augmenté la TVA, puisqu'elle devrait augmenter l'année prochaine à passer pour les salles à 10%, mais, et ce n'est pas sûr, parce qu'il y a encore des débats pour essayer de revenir à 5%, mais c'est quand même un choc de moins grande ampleur. Donc, ce système-là, c'est le fondamental de ce qu'on appelle le système français de financement du cinéma. Le fondamental, c'est le retour un financement qui ne dépend pas des crédits budgétaires de l'État. Le deuxième fondamental, c'est que à peu près 2/3 des aides sont des aides automatiques. Pour les exploitants, c'est proportionnel à leur chiffre d'affaires, pour les distributeurs aussi, et pour les producteurs aussi. Automatique ne veut pas dire sans plafond et sans limite, c'est-à-dire que le système, par exemple, de soutien automatique à la production, il est dégressif. À un moment donné, un touchable voit son taux de soutien descendre à 10%, alors qu'au départ, il est à 120%. Bon. Pareil pour la distribution, pareil pour l'exploitation, où ça favorise plutôt les petites salles par rapport aux multiplex. Mais c'est quand même un système, comme il est automatique, vous l'intégrez en tant que les chefs d'entreprise, l'intègrent dans leur compte d'exploitation. Et donc, ils ont une certitude. 1/3 des aides sont des aides sélectives. Alors, les aides sélectives, il y a celle dont on parle tout le temps, qui avait été créée par Malraux et qui a été ensuite sensiblement augmentée, c'est l'avance sur recette. C'est celle dont rêvent tous les cinéastes, ceux qui veulent faire un film. Ils font leur dossier, ils se présentent. Et ils l'ont ou ne l'ont pas, bon, ils passent quelques coups de fil. Bon, c'est vrai, c'est ça l'inconvénient des aides sélectives, c'est qu'on peut jouer. Bon. Et ce n'est pas forcément le meilleur film qui est choisi, ça peut être le meilleur magouilleur qui est choisi. Bon, hein, bon, c'est vrai, mais en général quand même, les gens qui travaillent à cette avance sur recette sont sérieux, et surtout la meilleure garantie que ce ne soient pas toujours les mêmes, c'est qu'on fait tourner ceux qui choisissent. Et les commissions sont composées de producteurs, d'auteurs, d'artistes, interprètes. Et ce sont ces gens-là qui font fonctionner le système. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les professionnels importants du métier ont tous, à un moment donné, travaillé dans une des commissions d'aide sélective, la production, la distribution, l'exploitation, pour attribuer ces aides. Pour la distribution, c'est pareil, il y a des aides qui soutiennent les petits ou les moyens distributeurs, et pour les exploitants, il y a des aides sélectives qui vont aux salles dans les zones les plus défavorisées ou les salles les plus petites. Donc on a un système qui, en gros, est aux deux tiers automatique, mais, et cet automatique, il est quand même dégressif, donc il est mutualiste, et on a un système sélectif pour un tiers qui permet d'aider les FIM qui ont plus de difficultés à rencontrer des producteurs parce qu'ils pensent que les producteurs, que ces films ne feront peut-être pas beaucoup d'entrées, à aider la distribution des films difficiles à distribuer ou de cinématographie de pays en développement, et puis à aider une parfaite implantation des salles sur l'ensemble du territoire. Donc c'est ça le système français. Alors c'est un système, je le décris comme ça, ça a l'air simple. En réalité, vous pouvez tous aller sur le site du Centre national du cinéma. Il est extraordinairement sophistiqué. Et de temps en temps, je trouve qu'il ressemble à un film que j'adore, de Terry Gilliam, qui s'appelle Brasil. Pour ceux qui ont vu Brasil, vous voyez, il y a des salles avec énormément de tuyaux. Alors au CNC, vous avez les très gros tuyaux, ceux dont je vous ai parlé, l'aide à l'exploitation, l'aide automatique à la production, l'aide à la distribution, l'avance sur recette, c'est aussi un gros tuyau, l'aide à l'audiovisuel, le fonds automatique et sélectif d'aide audiovisuelle, gros tuyaux. Et puis vous avez plein de petits tuyaux qui sont créés à un moment donné pour régler un problème. Et le sujet, c'est que ces petits tuyaux, comme il y a toujours des assoiffés sous le tuyau, il reste en place, on ne réexamine pas les aides. Et ça, c'est un des problèmes qui a été soulevé par la Cour des comptes, c'est que les grands canaux d'aide du CNC, ça fonctionne, ça c'est incontestable, et ça nous est d'ailleurs envié par les professionnels des autres pays. Mais alors, il y a plein de petits trucs là, que certains spécialistes connaissent bien, et qui savent, c'est aussi un des métiers des producteurs, des distributeurs, de savoir repérer les endroits où on peut aller chercher un peu d'argent. Et là, le CNC devrait, tous les trois ans, par exemple, refaire un bilan de toutes ces aides pour voir si elles sont justifiées. Et puis, chaque fois qu'il y a un nouveau problème, les gens demandent une aide. Par exemple, maintenant, si vous produisez un film, vous êtes obligé de faire un master numérique. Mais vous devez quand même conserver la copie analogique, parce que pour le moment, on n'a rien trouvé de mieux que l'ancienne copie analogique pour conserver les films. Et donc, immédiatement, vous avez les organisations de producteurs qui disent « Ah, il faut une aide au master numérique ». Et puis, vous avez le CNC qui est toujours très généreux, parce que quand il y a quelques producteurs qui rentrent dans le bureau du président du CNC pour couiner, en général, il écoute attentivement. Et le CNC, il envisage de faire une aide. Enfin, bon, il y a plein d'aides, si vous regardez, c'est comme ça. Mais bon, ça, c'est le petit défaut du système. Mais disons que, globalement, l'intérêt du système, pour la production aussi, ça, il faut que je l'explique, c'est que, vous allez tout de suite comprendre, quand la part de marché du film français est élevée, par exemple, qu'on fait 40, comme en ce moment, 40-45% de part de marché, évidemment, ça génère beaucoup plus de droits au soutien automatique que si, comme l'aide est proportionnelle aux entrées faites par les films français, que si on faisait 20% de part de marché. Donc, à ce moment-là, le taux d'aide faiblit, puisque les sommes mises à disposition d'une année sur l'autre augmentent, mais augmentent des proportions raisonnables, alors que la part de marché du film français peut faire des va-et-vient considérables. Moi, j'ai connu, actuellement, on est au-dessus de 40, moi, j'ai connu des années où la part de marché du film français était de 25-26. Bon. Après-guerre, elle était de 50. Bon. Donc, quand la part de marché du film français est forte, le taux d'aide est maintenu à un niveau relativement raisonnable. faible. Pas faible, pas faible, mais disons raisonnable. Mais si demain, la part de marché du film français chute, automatiquement, comme il y aura moins d'argent généré pour le soutien automatique de la production, on va remonter le taux d'aide. Et donc les films français, les producteurs, bénéficieront d'un taux de retour sur le soutien beaucoup plus important. Donc le système de soutien automatique à la production a un effet qu'on appelle contre-cyclique. C'est-à-dire si le cycle de la production fait que les films ne marchent pas bien, les producteurs, à l'arrivée, disposeront de plus de retours de soutien pour réinvestir. Si par contre, on fait trois intouchables dans l'année, l'année suivante, le taux d'aide va chuter. Et donc, on a, si vous voulez, une sorte d'amortisseur pour empêcher le cinéma français de chuter. Et ce, d'autant plus que le volume de production se maintient et à un niveau très élevé. Parce qu'un des sujets que régulièrement posent les professionnels, c'est est-ce qu'on fait trop de films ? Vous avez entendu ça ? On fait trop de films. Bon. Alors, moi, comme je le dis toujours, j'ai rencontré un personnage qui décidait combien on faisait de films dans l'année dans son pays. Et je l'ai vu physiquement. Il avait une vingtaine de téléphones de toutes les couleurs autour de lui. C'était le ministre du cinéma de l'ex-URSS. Chaque année, il avait des crédits, il disait on fait 200 films, et puis voilà, pas un de plus, pas un de moins. Nous, on est dans un système libéral, même si c'est un libéralisme tempéré par la politique d'aide. Mais, et qu'on ne peut pas savoir quels sont les films qui vont marcher. J'ai un cas, par exemple, très amusant et bon pour son producteur. C'est le film dont vous avez tous entendu parler, qui était un énorme succès, qui s'appelle « Trois hommes et un couffin ». « Trois hommes et un couffin », ça devait être un téléfilm. Et les télés n'en ont pas voulu. Si ça avait été un téléfilm et que les télés en avaient voulu, il lui serait passé, il aurait peut-être fait une bonne audience, mais personne n'en aurait parlé après. Bon. Le producteur n'a pas pu le faire en film de télévision, il l'a fait en film de cinéma, et c'était un des plus grands succès du cinéma français cette année-là, et même pendant une longue période. Et bien évidemment, ça a été un succès parce que c'était cinématographique, et le public était le voir en salle. Et donc, ce film qui avait été rejeté par la télévision est devenu un des grands succès du cinéma. Mais vous auriez dit au début de l'année, est-ce qu'il faut faire ce film ? Vous auriez plein de gens qui vous auraient dit, non, ça ne sert à rien de le faire, il n'est pas bon, il n'intéressera personne. Donc comme on ne sait pas les films qui vont marcher et ceux qui vont échouer, c'est très compliqué de prendre des décisions, où, de toute façon c'est impossible dans un système libéral de décider qu'on a le droit de faire un film ou qu'on n'a pas le droit de faire un film. Alors l'inconvénient de faire beaucoup de films, c'est que c'est toujours facile de produire un film, enfin c'est facile, on peut toujours le produire, mais c'est très compliqué de le distribuer, et surtout de bien le distribuer. Et donc le problème qui se pose, c'est l'accès aux salles, et donc la nécessité de soutenir les distributeurs, et de trouver aussi des combinaisons de sorties adéquates, et dans l'univers du numérique, de faire en sorte, comme il n'y a pas de limitation au prix des copies, de faire en sorte que les salles de cinéma soient régulées pour ne pas mettre dans 10 salles le même film et laisser un peu de place aux autres. Donc ce système de soutien au cinéma régulé, qui fonctionne, qui est de l'argent public, mais qui n'est pas de l'argent du budget d'État, parce qu'il y a aussi un débat, c'est argent public, c'est pas argent public. Il faut être clair, c'est de l'argent public, c'est des taxes parafiscales. Si demain on demandait au gentil Nicolas de Taverneau, vous savez, le patron d'M6, ou à Nons Paolini, est-ce que vous voulez volontairement contribuer au financement du cinéma par le système de compte de soutien, je pense qu'il vous répondrait non. Donc s'ils payent et tout, c'est parce que c'est une obligation légale, réglementaire, et que s'ils ne payent pas, évidemment, ils seront poursuivis par Bercy et par le CNC. Donc c'est bien de l'argent public, mais ce n'est pas l'argent de l'État. Donc ça, c'est le premier volet de ce qu'on pourrait appeler la politique du cinéma en France. C'est tout le système de financement autour du CNC, ce système de taxes parafiscales, ce système de soutien automatique et les aides sélectives qui complètent les aides automatiques. Ça, c'est le premier grand volet. Je dirais que ça marche. On a le problème qu'on a cette année, c'est justement que la taxe sur les opérateurs de télécom, qui n'est pas une taxe sur l'Internet, qui est une taxe sur la partie audiovisuelle des offres triple play. Hein, si vous avez un abonnement Internet, dans certains cas, vous avez l'offre triple play qui vous permet de recevoir les programmes de télévision. Bon. Et donc, le gouvernement a considéré qu'à partir du moment où les opérateurs satellites, comme Canal Satellite, ou les réseaux câblés qui font de l'audiovisuel, payaient une taxe pour financer le compte de soutien, il était logique que les opérateurs de télécom, pour leurs activités audiovisuelles, financent aussi. Mais certains, et celui qui a été très malin pour éviter de payer la taxe, il y a un gars qui est très malin dans le système des télécoms. Enfin, celui-là, je vous le recommande. C'est Xavier Niel. Il est très malin. Alors lui, il a trouvé un truc. Comme la taxe était sur la partie audiovisuelle, quand vous aviez un abonnement à 29 euros qui comprenait tout, le téléphone, l'Internet et l'audiovisuel, le gouvernement avait dit 50%, on considère que 50% de l'abonnement, c'est l'audiovisuel. Bon, si vous considérez le débit, par exemple, le trafic Internet, 90% du trafic que fait un particulier, ce sera l'audiovisuel, parce que l'Internet ou le téléphone, ça prend peu de place en termes de données, de data. Et donc, lui, le Xavier Niel, il s'est dit, comment je peux faire pour échapper à la taxe ? Ah, mais il a trouvé un truc génial. Il a mis l'abonnement à 29 euros, et puis il a dit aux gens, si vous voulez avoir la télé, vous payez 2 euros de plus. Et c'est sur le 2 euros que seront la taxe CNC. Donc le CNC, au lieu d'encaisser 50% de 29 ou 30 euros, il va avoir sa même taxe sur 2 euros. Bon, alors le CNC, pour contrecarrer ça, a dit, dès lors qu'il y a une offre Internet comprenant même un supplément d'audiovisuel, on taxe, on prend comme assiette l'ensemble du chiffre d'affaires triple play, y compris la partie télécom. Et là-dessus, Bruxelles a dit « Ah, pas du tout, pas du tout, on n'a pas le droit de taxer les télécoms ». Et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a un conflit entre Bruxelles et la France qui fait que Free triche avec ses 2 euros, SFR a suivi avec pareil, 2 euros, 1,99 €, et puis il y a un pauvre couillon qui ne peut pas suivre parce qu'il a comme actionnaire l'État, c'est Orange, alors lui, il continue de payer sa contribution au compte de soutien. Voilà, donc ça, c'est un peu l'exemple de la tricherie qui, en plus, est validée par Bruxelles. On espère que ça va se régler, le Premier ministre s'en occupe, le Président de la République s'en occupe, depuis le mois de novembre, mais rien n'a changé. Bon. Mais on a toujours espoir qu'ils vont réussir à dégeler Bruxelles. Donc vous comprenez que tout ça est compliqué, hein, parce que vous voyez avec cette histoire que vous n'êtes plus dans un univers où même la politique culturelle, audiovisuelle, cinématographique, vous pouvez la décider tout seul. Vous êtes obligé de lever le doigt et de demander à Madame Nelly Kreuss, dont vous avez pu apprécier la coiffure absolument parfaite, pour ceux qui la connaissent, hein, elle a l'habitude de mettre des bigoudis assez souvent. Non, mais je dis ça en rigolant, je l'adore. Mais... On est en partie plus maître de notre destin. Il faut bien comprendre ça. Même pour des politiques, on n'est plus maître sur sur les finances publiques, puisque maintenant il y a des impératifs catégoriques qu'on doit théoriquement respecter, le 3%, les machins comme ça. Non. Mais même sur des politiques culturelles, qui normalement sont du ressort de la subsidiarité, comme ça touche un secteur qui est géré aussi par l'Europe, qui est les télécoms, on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut. Mais enfin voilà, à part ce souci, c'est un souci à 11 millions d'euros par mois quand même. 11 millions d'euros par mois, en fin d'année, ça fait à peu près 130 sur 700. Vous voyez, c'est quand même beaucoup d'argent. Bon. À part ça, on a globalement un système qui fonctionne bien et qui a quand même permis, grâce à la mesure prise par Jacques Lang, qui était un coup de génie de taxer la télévision, de passer la crise du cinéma. Parce que moi, quand je suis arrivé dans le cinéma, c'était il y a très longtemps, en 82, à l'époque, il y avait à peu près 180 millions d'entrées en salle. En ce moment, il y en a à peu près 200, un peu plus de 200. Mais on a connu une période à 110 millions d'entrées. Ça veut dire que les ressources du compte de soutien, si elles n'avaient été à l'époque basées, c'était dans les années 90, basées que sur la taxe sur les salles, elles auraient fondu de moitié. Et c'est la contribution des télévisions, et c'est logique parce que c'est aussi la télévision qui a fait baisser les entrées salles pendant toute une période, qui a permis de compenser l'érosion des salles et ensuite de repartir à la conquête du public des salles, puisque l'argent du compte de soutien a permis de rénover, de créer des multiplexes, de faire des salles plus facilement accessibles, avec des parkings. Enfin, les multiplexes qu'on a beaucoup critiqués quand ils ont été créés ont permis aussi de reconquérir le public et surtout d'avoir une bonne diversité de films à l'affiche, puisque par définition, ils ont entre 15 et 20 salles, ces multiplexes. Donc ça, c'est le volet politique publique du cinéma par l'intermédiaire du CNC. Le deuxième volet, qui est tout aussi important, et là, c'est pareil, c'est le même mécanisme que le judo. Le judo, c'est un sport magnifique. D'ailleurs, la France a des grands champions de judo. Bon. Le deuxième mécanisme, et là, celui-là, il ne coûte rien à l'État du tout. Et ça, celui-là, il est formidable. Il suffit d'un truc au journal officiel, ça s'appelle un décret, il est excellent. C'est l'obligation pour les chaînes de télévision, pour les différents opérateurs, de contribuer au financement du cinéma. Et donc, progressivement, ça a commencé avec le service public, et après ça a été étendu aux chaînes privées, on a mis en place en France un système qui oblige les chaînes de télévision à investir dans la production ou la coproduction ou les achats de droits avant la production, donc c'est de l'argent que le producteur peut escompter pour financer le film, dans le financement de la création d'œuvres françaises et de films européens. Alors, par exemple, le service public, lui, doit mettre 3,5% de son chiffre d'affaires chaque année dans le financement des films. Il le fait par l'intermédiaire. Les grandes chaînes privées doivent mettre 3,2%, et Canal+, lui, doit mettre 9,5% dans les acquisitions de droits cinématographiques. Cela fait à peu près... ça doit faire plus de 200 millions d'euros investis chaque année. Et donc cet argent, qui est d'argent privé, alors là, ce n'est plus de l'argent public, ce n'est pas de l'aide publique, mais c'est de l'argent qui découle d'une réglementation, parce que spontanément, c'est toujours pareil, à part peut-être le service public, parce que c'est sa mission, les opérateurs de privés ne feraient pas ce genre de choses. Bon, ils investiraient dans des films, mais certainement pas à cette hauteur-là. C'est cet argent-là qui représente globalement à peu près 50% du financement du cinéma français qui permet aux producteurs de faire le film. Parce que sauf quelques exceptions, les producteurs n'ont pas l'argent pour faire les films. Hein? Les producteurs, c'est comme des promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers, ils annoncent qu'ils vont construire un immeuble, et puis ils attendent que les gens prennent des options sur les appartements, et puis une fois qu'ils ont vendu 60-70% de l'immeuble, ils se lancent. Ben, c'est un peu pareil pour les films. Le producteur, sauf les grosses sociétés qui ont des fonds propres, ils vont faire le tour des distributeurs en salle, des éditeurs vidéo, des marchés étrangers et surtout des chaînes de télévision françaises. Et c'est une fois qu'ils auront rassemblé des contrats en nombre suffisant pour avoir l'argent pour faire le film, qu'ils vont se tourner vers leurs banquiers. Leurs banquiers, rassurés par la signature de Canal+, de TF1 ou du service public, va leur escompter le contrat et leur donner les liquidités qui leur permettront de faire le film. Donc c'est ce système d'obligation de financement de la création française par les chaînes de télévision qui a assuré jusqu'à présent le développement des ressources du cinéma, ajouté à celui du compte de soutien. Tout simplement pourquoi ? Parce que depuis une vingtaine d'années, les ressources du système n'ont cessé d'augmenter. Le seul hic, c'est qu'on arrive au moment où la tendance se retourne. Et elle se retourne parce que pour la première fois en 2013, le service public aura moins d'argent. Si vous suivez les questions, vous avez peut-être vu que le financement assuré par l'État du service public, malgré l'augmentation de la redevance, sera inférieur à ce qu'il était l'année précédente. Et les grandes chaînes privées, TF1, M6 et même Canal+, qui financent l'essentiel du cinéma français, parce que ce n'est pas les toutes petites nouvelles chaînes de la TNT qui, pour le moment, sont en dessous des seuils qui déclenchent les obligations qui peuvent financer les films. Ces chaînes-là souffrent beaucoup puisque, un, le marché publicitaire est déprimé par une conjoncture économique qui est mauvaise. Et vous savez que lorsqu'une entreprise est en difficulté, la première chose qu'elle réduit, ce sont ses dépenses de communication et de publicité. C'est plus facile de réduire ses dépenses de communication, ses frais généraux, ses notes de frais, que de commencer à licencier du personnel. Parce que si vous licenciez du personnel, dans un premier temps, ça vous coûte. Parce qu'il faut payer toutes les indemnités. Donc, lorsque l'économie ne va pas bien, les dépenses de publicité souffrent. Deux, ces dépenses de publicité ont tendance aussi à baisser, tout simplement parce que, comme on a eu une politique très expansionniste en matière de chaînes, le fait qu'il y ait beaucoup de chaînes et le fait que la chaîne principale, qui est TF1, et vu son audience s'effriter, alors que TF1 avant était une chaîne qui avait une primo leader et qui dictait un peu les tarifs du marché de la publicité, a redonné le pouvoir aux annonceurs, a redonné des pouvoirs de négociation aux annonceurs, et les prix des spots ont baissé. Donc il y a toujours autant, même plus de volume de publicité, mais la publicité vaut moins cher. Et en plus, dans le paysage TNT, les petites chaînes pour le moment sont en dessous du seuil auxquelles elles doivent contribuer au financement du cinéma. Et dans les chaînes, vous avez des chaînes d'information, des chaînes de sport, qui, elles, n'ont bien sûr pas d'obligation de financement du cinéma, puisqu'elles ne diffusent pas de films, qu'elles sont hors du système. Et trois, on voit arriver, pour la collecte de la publicité, un concurrent qui, pour le moment, n'apporte aucune contribution au système, ce sont toutes les offres Internet. Et le grand sujet qui va être posé à l'ensemble de la régulation du cinéma, c'est comment maintenir un système régulé dans un environnement où vous pourrez aller collecter des recettes publicitaires sur le territoire français en étant localisé hors de France, c'est-à-dire en ne payant ni vos impôts en France, ni bien sûr en étant soumis aux obligations de verser une partie de vos ressources au CNC ou d'investir une partie de vos ressources dans la création française. Donc il y a un défi qui est posé à l'ensemble du système réglementaire qui est celui d'un risque de déstabilisation par le développement des services délivrés par Internet. C'est aussi un défi pour les États. Vous avez vu, j'en ai parlé la dernière fois, j'espère que vous avez lu le rapport des Colin et Colin, Colin au carré, qui est absolument passionnant. Il y a aussi là, sur le sujet un rapport de l'OCDE, c'est un défi fiscal, puisque les grandes entreprises de l'Internet, mais pas seulement de l'Internet, ça concerne IKEA, Starbucks, enfin d'autres entreprises, toutes les multinationales ont inventé des systèmes extrêmement ingénieux pour échapper aux impôts. Et si elles ne payent pas leurs impôts, elles paieront encore moins les contributions supplémentaires qu'on a inventées pour financer la création. Donc le défi majeur du système réglementaire français tel qu'il a été conçu à la fois pour le financement du CNC et pour le système des obligations, c'est que ceux qui sont les principaux payeurs du système, en gros les grands diffuseurs, vont progressivement se retrouver affaiblis, qu'ils risquent d'avoir des concurrents qui ne seront pas soumis aux mêmes obligations et qu'ils donc vont donc demander à ce que leurs obligations soient allégées en arguant du fait qu'eux, ils sont localisés en France, qu'ils créent de l'emploi et qu'il n'y a aucune raison que ceux qui sont en Irlande, au Luxembourg et qui ne créent pas d'emploi sur le territoire français les concurrencent de façon déloyale par le fait qu'ils n'ont pas de charges. Donc ça, c'est le principal défi qui va être posé à toute cette politique du cinéma qui a été mise, qui a été constante et continue depuis 1946, qui a été en réalité très consensuelle. Ce n'est pas une politique de droite, ce n'est pas une politique de gauche. Toutes les mesures favorables au cinéma ont globalement été approuvées et par la droite et par la gauche, bon, puisque l'exemple que je vous donnais de la taxe télévision, ça a été créé par la gauche, par Jacques Lang, mais à hauteur de 4,5%, il avait prévu que ça serait 5,5%, et quand c'était 5,5%, celui qui gouvernait, c'était Chirac, c'était Léotard qui était ministre de la Communication, et ils n'ont absolument pas remis en cause ce mécanisme de financement de la création. Donc ces systèmes-là, il risque d'être mis en cause non pas par des débats politiques internes, mais par des évolutions technologiques qui permettent aux grands opérateurs de l'Internet de s'affranchir des critères de localisation. C'est ça un peu l'enjeu qui va se poser pour le cinéma. Alors, pour Maraval, Là, heureusement qu'on avait Maraval à Noël, hein, sinon on serait embêté. Alors, cette affaire est quand même assez symptomatique. Là, je suis désolé pour cette profession, du manque de curiosité des journalistes. Parce que moi, j'aurais eu un gars qui s'exprime comme ça et tout. J'aurais fait ce qu'on appelle une enquête. J'aurais cherché à savoir pourquoi il raconte ça. Donc j'aurais enquêté sur lui et sur sa société. Sur lui, pourquoi il s'est plaint? Parce que vous savez, il était un des gros investisseurs, je crois qu'il a dû investir plus de 20 millions d'euros, dans Astérix, le dernier. Bon. Pour récupérer son investissement, je pense qu'il fallait que le film fasse à peu près 7-8 millions d'entrées en salle. Il a dû en faire 4. Donc, il a perdu beaucoup d'argent. Il a dû trouver que les acteurs, comme Danny Boone, qui n'a pas un grand rôle dans le film, et qui certainement ne voulait pas faire le film, quand un acteur ne veut pas faire le film, en général, il monte son cachet. Bon. Puis il se dit, s'il y a un couillon qui accepte ça, bon, pourquoi pas bon. Parce que ceux qui se plaignent, c'est quand même bizarre que ce soit un producteur parce que ce sont les producteurs qui payent les acteurs, qui se plaignent des cachets trop élevés des comédiens. Si on trouve qu'un cachet est trop élevé, ben on ne le paye pas. C'est assez simple. Bon. Et Danny Boone donc a dû, ça je l'invente un peu peut-être, il a dû se dire, bon, je n'ai pas envie de faire le film, donc je demande un cachet très élevé, et puis jackpot, on lui donne l'argent. Alors je suppose qu'il n'a pas dû faire participer beaucoup à la promotion d'un film auquel il croyait peut-être pas follement, et que c'est ça qui a énervé le sieur Maraval. Mais si vous avez la curiosité, ce maraval, il a une société qui s'appelle Wild Bunch. Si vous voulez tout savoir sur une société, vous dépensez un tout petit peu d'argent, vous allez sur les sites spécialisés et vous regardez qui est actionnaire de la société. C'est ce que j'ai fait et qu'aucun journaliste n'a fait. Et moi, je regarde la liste et je vois un nom américain. Ça m'a intrigué, un nom américain. Bon. Et donc, je tape sur Google, le moteur de recherche le plus connu dans le monde, et très facile à s'en servir. Je crois que tous les journalistes savent aller sur Google. Je tape le nom du monsieur que je vois. Et tac, je tombe sur un hedge fund au Wisconsin. Donc, ça veut dire que cette société est financé par un hedge fund. Un hedge fund, vous savez, c'est les fonds spéculatifs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que pour offrir à son hedge fund la rentabilité suffisante, le monsieur Maraval, il a pris des risques, c'est-à-dire, il a voulu prendre Astérix, c'était ce qu'on appelait une franchise pâtée, c'est-à-dire tous les Astérix, depuis Claude Berry est le premier qui avait fait le film, produit le film, étaient chez Pâté. Et donc, pour enlever à Pâté le film, bah, il a fait de la surenchère. Et puis, manque de chance, le film n'a pas eu le succès escompté. Donc, moi, ce que j'ai trouvé désolant, c'est qu'au lieu de se mettre en cause lui-même, je me suis trompé, voilà, j'ai voulu faire un coup au casino, ils s'en prennent aux acteurs. Bon, c'est tout, c'est désolant, parce que dans les métiers du cinéma, les seuls dont les salaires sont publiés et font l'objet de listes, le Figaro s'est spécialisé là-dedans en début d'année ou en fin d'année, ce sont les acteurs. Il y a des listes d'acteurs, bon, avec les chiffres de leur salaire. Ce que j'ai trouvé aussi curieux, c'est qu'ils disent ces acteurs français, qui en gros sont payés trop cher, donc ils ne justifient pas par les entrées qu'ils font, mais ça on le sait qu'après, l'argent que l'on a mis dedans, ils demandent beaucoup plus d'argent que les Américains, les acteurs américains. Et il a cité quelques exemples. Mais ces exemples sont faux, parce qu'il a comparé les prix des acteurs dans les gros films français au prix des acteurs dans les petits films, dans les films indépendants américains. Mais si vous comparez les salaires des acteurs français, les mieux payés, à ceux de ceux que vous avez vus défiler sur le tapis rouge des Oscars, les grandes stars d'Hollywood, Tom Cruise et tout ça, là, vous êtes dans des niveaux de 20-25 millions de dollars. Et ça n'a strictement rien à voir avec... C'est 10 fois supérieur, au moins, au salaire des acteurs français les mieux payés. Et c'est logique. Pourquoi? Parce qu'un grand acteur américain, connu, archi-connu, c'est ce qu'on appelle une marque mondiale. Il sera connu aux États-Unis, mais il sera connu en France, il sera connu en Europe, il sera connu au Japon, et certains d'entre eux seront même connus en Chine. Donc quand vous les payez très cher, c'est parce que vous avez des gens qui, en plus, comme ils sont très professionnels, vont faire un travail de promotion dans le monde entier, qui sont capables, quand le film est réussi, parce qu'un acteur dans un film pas réussi, il n'arrivera non plus jamais à faire des entrées, qui sont capables, sur leur nom, de séduire le public dans de nombreux pays. Donc, cette comparaison était totalement fausse. Et donc, moi, j'ai dit que Maraval, c'était en quelque sorte le joueur de casino qui perd et qui accuse le croupier. Hein? Bon, c'est tout. Si vous perdez, vous jouez, vous perdez, bon, voilà. Donc, alors, deuxième chose, et ça a été plus intéressant, et c'était souligné par un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est Michel Hazanavicius, le réalisateur de The Artist, c'est que pourquoi les acteurs demandent des cachets très élevés? Pourquoi? Eh bien, parce que ils préfèrent faire, comme le dit Woody Allen, un titre de film, « Prends l'oseille et tire-toi ». Et pourquoi ils font ça? Parce que comme il n'y a pas de transparence des comptes des producteurs, si ils prennent un cachet plus bas et qu'ils disent « si le film marche bien, je vais prendre 5-10% des recettes ou des bénéfices », eh bien, ils ne sont pas sûrs de les toucher. C'est pour ça que même quand les acteurs jouent le jeu du succès du film. Dans beaucoup de cas, ils ne jouent pas le jeu d'un pourcentage sur les recettes. Ils préfèrent dire « je vais prendre un demi-euro, un euro par entrée ou un euro par DVD vendu bon. ». Tout simplement parce que c'est l'absence de transparence sur à la fois les coûts de film et les recettes des films qui crée, ce qui est malsain en soi d'ailleurs, l'inflation des cachets. Si par contre le système était transparent, et si le CNC mettait en place un véritable système de transparence des comptes des producteurs, ben, il y aurait beaucoup plus de comédiens qui prendraient des risques, enfin qui abaisseraient leurs cachets. Ceci étant, moi j'ai trouvé que c'était très injuste vis-à-vis des comédiens, parce que tous ceux qui font ce métier ou qui le connaissent savent que lorsque les comédiens ont vraiment envie de faire un film, que le scénario leur plaît, bah, ils font des efforts sur leur cachet pour que le film se fasse. Voilà. Et que c'est souvent ces comédiens-là qui obtiennent les financements des chaînes. Parce que pourquoi aussi il y a cette envolée des cachets des acteurs? Parce que les chaînes de télévision exigent une distribution artistique susceptible de faire de l'audience à la télévision, ou tout au moins de générer au moment du lancement des films de la presse suffisante pour créer ensuite l'effet boule de neige que constitue le bouche-à-oreille. Bon, parce que ce qui fait le succès d'un film, c'est le film lui-même, c'est le public. L'objectif du marketing, c'est de créer le bouche-à-oreille et de faire en sorte que la recommandation du spectateur fasse le succès du film. Donc c'est pour ça que toutes ces déclarations... Alors ce qui était très surprenant, c'est qu'il suffit que quelqu'un raconte une connerie dans le monde, après tout le monde le reprend, le ministère de la Culture organise de grands débats. Ils avaient trouvé le théâtre éphémère de la Comédie française, et c'était dans le décor du Malade imaginaire, ce qui était d'ailleurs un choix absolument remarquable, bon, où toute la profession, naturellement, à ce moment-là, a compris qu'il y avait un problème, n'a strictement rien dit. Mais ces gens-là ont causé comme un tort au système, parce que mettez-vous du côté du parlementaire qui s'intéresse au cinéma une fois par an, qu'est-ce que c'est que ce système où c'est de l'argent public qui va servir, en période de crise, à délivrer des salaires extravagants à certains acteurs. Ajoutez à cela l'histoire de Depardieu, l'exil fiscal. On parle plus de Depardieu, il a peut-être un peu d'argent, mais il est beaucoup moins riche que Bernard Arnault. Alors, c'est sans commune mesure. On a beaucoup moins parlé de Bernard Arnault que de Gérard Depardieu. Et donc, mettez le cocktail Maraval, Depardieu, tout ça... argent, vedette ultra connue, vous avez tout ce qui intéresse la presse. Mais la presse n'a pas enquêté. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ils enquêtent pour savoir pourquoi il y a eu ces déclarations et pour quelles raisons le sieur Maraval avait fait des investissements aussi, aussi importants. Voilà, en plus, j'ajouterais que dans une économie qui est une économie comme celle du cinéma de prototype, parce qu'on arrive à faire ce qu'on appelle des franchises, c'est-à-dire à faire des fois, trois fois, quatre fois le film avec le même personnage ou des histoires qui se suivent, mais ça s'épuise quand même assez rapidement. Ce qui est rassurant pour les investisseurs, ça peut être soit le réalisateur, parce qu'il a un passé de réalisateur qui a fait des succès, soit l'image du film, c'est-à-dire ce sont les acteurs. Donc dans une économie qui est une économie de risque, les investisseurs cherchent à se rassurer, ils se rassurent souvent par les acteurs, et c'est comme les acteurs pour lesquels ils se rassurent sont peu nombreux, évidemment ils sont en position de négociation forte. Mais la carrière des acteurs peut, comme celle des grands sportifs, être très brève. Voilà pour... l'affaire Maraval. Mais c'est une affaire qui... Là, je suis en train de préparer une plaquette pour un peu redire certaines vérités, mais c'est une affaire qui peut profondément et durablement nuire à la politique du cinéma, parce qu'elle peut dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce système? En quoi est-il justifié ?» Alors, si je dois dire en quoi il est justifié, C'est assez simple. Il suffit de regarder les chiffres. La France est donc le premier cinéma d'Europe en termes de fréquentation salle, en termes de part de marché, en termes de nombre de films produits. Et en ce qui concerne la fréquentation salle, c'est pas comme une politique de quota, il n'y a pas d'obligation. Personne n'oblige le spectateur français à aller voir des films français plutôt que des films américains ou des films d'autres nationalités. Donc ça prouve qu'une partie du cinéma, dans sa diversité, répond à la demande du public. Et pourquoi sommes-nous le premier cinéma d'Europe? Parce que les autres se sont effondrés, d'abord les Anglais, ensuite ceux qui avaient un cinéma extraordinaire, les Italiens. Les Italiens, il y a 30 ans, avaient un cinéma beaucoup plus puissant que le cinéma français, aussi bien en termes de fréquentation que même en termes... Alors c'est difficile de le comparer, mais peut-être en termes de talent artistique. Enfin, il y avait un cinéma très très fort. Et ils se sont effondrés. Parce que lorsque la télévision s'est développée et que la télévision a fait s'effriter le marché des salles de cinéma, ils n'ont pas, comme en France, construit une politique à la fois par le compte de soutien et par les obligations d'investissement des chaînes qui permettent que la télévision relaie l'argent qui ne venait plus des salles de cinéma. Et c'est ça qui fait que le cinéma français qui était derrière a chuté moins que les autres. Et il a même après redressé la tête, alors que les autres se sont retrouvés, faute d'une politique suffisante, dans une situation désastreuse. Autre exemple, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui a des cinéastes extrêmement forts, qui en plus a un avantage linguistique, parce que l'anglais permet d'être diffusé dans le monde entier, et surtout d'avoir un accès plus facile au premier marché du cinéma, qui est premier marché occidental, hein, qui est le marché du cinéma américain. Les Anglais ont une chaîne à péage extrêmement puissante. C'est Biscayby. Biscayby, c'est une chaîne qui a un chiffre d'affaires supérieur à Canal, énormément d'abonnés. Mais c'est la chaîne qui est la propriété de Murdoch. Bon. Et le gouvernement anglais n'a jamais imposé à Biscayby d'obligation importante vis-à-vis du cinéma anglais. Tout simplement parce que Murdoch avait, bon, maintenant ça s'est effrité, mais pendant longtemps, avec ses journaux, terrorisait les gouvernements. Vous savez, il suffisait qu'ils mettent des petites photos d'hommes politiques en situation difficile et tout ça. Et, mais si le cinéma anglais avait bénéficié, comme en France, d'obligations d'investissement pour Biscayby, en gros même au moins égale, et peut-être même inférieure à celle de Canal+, j'ai pas de doute, le cinéma anglais serait le premier d'Europe. Parce qu'il n'y a pas de... Personne ne peut prétendre que les cinéastes français, les acteurs français, ont plus de talent que les cinéastes italiens, que les acteurs italiens, que les acteurs anglais. Ce qui fait la différence, c'est qu'il y a eu en France une politique continue du cinéma, un système assez intelligent qui a été mis en place et qui repose sur un principe finalement assez simple, c'est on prend l'argent au niveau de la diffusion et on le remonte sur la création et une partie, qui est d'ailleurs pas très importante au fond sur l'ensemble du compte de soutien, sur les salles de cinéma pour permettre la modernisation des salles. Récemment, vous savez qu'il y a eu un changement très important dans le cinéma technique, c'est la numérisation des films. Pendant 5 ans, c'est d'ailleurs assez amusant, parce que pendant 5-6 ans, à tous les congrès de la Fédération des exploitants, on parlait de la nécessité de numériser les salles. Et puis, il y avait des grands patrons de circuit qui disaient « Non, jamais, c'est trop compliqué et tout. Bon. » Et puis, il y a un gars qui s'appelle James Cameron, un petit gars, bon, qui fait beaucoup d'entrées, bon. Qui a annoncé qu'il faisait un film numérique. Et on ne pouvait le voir dans sa version 3D que dans des salles équipées en numérique. Bon. Et un certain nombre d'exploitants de salles qui ont eu plus de flair que les autres se sont dit, bah, pour accueillir ce film en numérique, il faut enfin faire la numérisation qu'on reproche. Et ce qui s'est passé, c'est quand le film Avatar est sorti en salle, il y avait les salles qui passaient Avatar dans sa version 3D, et puis il y a ceux qui passaient Avatar dans sa version classique, analogique, mais pas 3D. Donc ils mettaient pas 3D. Et ceux qui avaient la version 3D ont fait des entrées colossales, et en plus beaucoup d'argent, parce que comme le film était long, le prix des places était majoré, et les autres ont vu leur salle, pas vide, mais peu remplie. Et donc immédiatement, les circuits qui n'avaient pas pris le virage du numérique l'ont pris, et grâce aussi au financement du CNC qui lui a aidé les salles plus petites, qui n'avaient pas forcément les ressources nécessaires pour passer rapidement au numérique. Actuellement, je crois, la quasi-totalité du parc de salles est passée de l'analogique au numérique, ce qui pose le problème d'ailleurs de la diversité, puisque maintenant, si un film marche beaucoup, c'est très facile à l'exploitant de le mettre dans 5, 6, 7 salles et d'évincer les autres films et donc d'empêcher la diversité des expositions. Mais ça, c'est un bon exemple que la politique publique de soutien au financement de l'exploitation a permis à la France très rapidement de passer de l'analogique au numérique. Et c'est un avantage, parce que vous voyez bien que c'est beaucoup plus compliqué si vous devez à la fois, pour les distributeurs, faire des copies numériques et faire des copies analogiques pour un nombre de salles qui progressivement se réduit. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire que le succès d'un cinéma, aussi bien du point de vue de la fréquentation en salle que de sa production. Alors, la qualité de la production, ça, après, c'est les goûts de chacun. Mais en tout cas, du volume de production et de la diversité de production, c'est bien sûr les talents des professionnels qui le font, mais c'est aussi toute une politique qui permet de faire ce qui est une réussite. Alors, la politique du cinéma en France, Elle a des trucs qui marchent moins bien. Si vous interrogez les professionnels, là, j'ai entendu là, ce mot, vous en aurez toujours qui pleurent. Ils passent leur temps à pleurer. Et une année, ils meurent au moins 10 fois. Hein, vous voyez leur tribune, leur machin, ils sont malheureux, ils meurent tout le temps. Mais ils ne meurent pas vraiment, ils sont toujours là. Parce qu'on fait beaucoup de films en France. Bon. Donc, c'est cette politique-là qu'il va falloir maintenant consolider, développer sur les réseaux Internet. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que nous n'allons pas dépendre que de nos propres forces et de notre propre politique, mais nous allons aussi dépendre des autorités européennes et des partenariats que nous pourrons nouer avec nos voisins. Voilà. Et il y a des pays qui remettent brutalement en cause leur politique du cinéma. L'Espagne, 40% de subventions en moins, une TVA qui augmente. Ils vont avoir beaucoup de mal à maintenir un cinéma espagnol fort, alors qu'ils ont incontestablement des talents de création de grande qualité. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est. Hein. Il est quelle heure, là? Quoi? Eh bien oui, alors 18h15. Bon, ben l'heure est aux questions, alors. Hein? Je sens que vous en avez marre, surtout ceux qui sont derrière la marque aux fruits, là. Les producteurs ont passé, les organisations de producteurs indépendants ont discuté pendant 7 ans avec les syndicats de salariés pour faire une convention collective. Ils n'ont réussi à rien. Ils ont dénoncé la convention collective. Moi, je connais bien le sujet, parce que pendant 20 ans, je me suis occupé des producteurs. Et je connais très bien la mentalité des producteurs. Quand vous avez un rendez-vous avec Bertrand Meheux pour discuter des obligations de Canal, ils sont tous là, parce qu'ils se montrent en se disant « si je me montre, peut-être qu'on va... » on mettra un peu d'argent dans mon film. Quand je demandais d'avoir une délégation pour discuter avec les syndicats de salariés, j'avais personne, à part la charmante Michel Le Broca, mais qui est très âgé, ancienne. Bon. Et donc, pendant 7 ans, ils ont discuté une convention collective. Et à un moment donné, un des patrons du GC, Alain Susfeld, en a eu marre et il s'est dit, on est obligé de faire une convention collective, on est obligé de faire une convention collective pour une raison, c'est que si vous ne réglez pas les problèmes de durée du travail, et parce que dans le cinéma, c'est facile à comprendre, si vous voulez tourner 8 heures, vous allez avoir des gens qui vont travailler 10 ou 11 heures. Il faut installer et désinstaller. Bon. Sauf si vous êtes en studio, mais le tournage en studio n'est pas ce qui est le plus fréquent dans le système du cinéma français. Bon. Et donc, ils avaient besoin d'une convention collective pour régler tous ces problèmes d'heures supplémentaires. Et parce que si vous ne les réglez pas et que vous avez un accident, vous êtes au pénal. Pour un chef d'entreprise, le risque d'accident du travail, si vous ne respectez pas la réglementation sur le temps de travail, c'est un problème. Et donc lui, il a discuté peut-être 9 mois, un an avec les syndicats représentatifs, qui sont la CGT et le syndicat des techniciens, qu'on appelle syndicat Post-Derec, parce que son délégué s'appelle Stéphane Post-Derec, et il a réussi à faire une convention collective. Avec un système qui fait que, en dessous, pour les films dont le coût de production est inférieur à 2,5 millions d'euros, il y a un système qui permet des participations, qui permet d'alléger les coûts de les charges de travail pour les techniciens dans la première phase. Et puis si le film marche, naturellement, les techniciens bénéficient d'un intéressement. D'où la nécessité, d'ailleurs, de la transparence. Immédiatement, comme par hasard, les indépendants, qui pendant 7 ans n'avaient réussi rien dans la négo, ils se sont mis à hurler, bon, en disant c'est un film pour les gros, c'est pour nous tuer, pour qu'on puisse faire des films pour les petits. Et ils ont trouvé la CFDT, qui n'est absolument pas représentative dans le secteur. Et à un moment, on a cru qu'ils auraient trouvé FO, qui n'est pas non plus représentatif, mais FO n'a pas signé. Et ils ont fait une contre-convention collective. Voilà où on est. Et on est dans un peu un rapport asymétrique, parce que incontestablement, la première convention, l'API, qui représente les gros producteurs, mais ne représente pas la diversité de la production. Par contre, les syndicats de salariés signateurs sont ceux qui sont représentatifs de la profession. Et inversement, pour l'autre convention, les indépendants, les syndicats indépendants sont représentatifs des producteurs, c'est incontestable. Mais ils ont trouvé des gens qui ne sont pas représentatifs du côté des salariés. Moi, je n'avais jamais vu de CFDT dans mes négos techniciens. Bon. Et en plus, ils ont fait une convention pour les acteurs, alors que le seul syndicat qui soit représentatif véritablement chez les acteurs, c'est le SFA-CGT. Bon. Donc, ils ont fait un truc un peu bidon. Et ça m'a rappelé quelque chose, moi. C'est que 2 ans avant, je voulais mettre en place un système pour faire la transparence des recettes pour les auteurs. Et pour faire la transparence des recettes pour les auteurs, le CNC a réuni une commission qui a travaillé pendant 1 an. Et au bout d'un an, le type du CNC, il est venu dans mon bureau, il m'a dit « Formidable, j'ai réglé le problème ». Il m'a donné une feuille et il avait trouvé un truc pour déterminer le coût du film. Il avait le coût du film. Mais il n'avait pas fait les recettes. Il m'avait dit, les recettes, on va repartir on refaire une discussion, c'est très compliqué, il faut les éditeurs vidéo. J'ai compris que j'arriverais à rien avec lui. Et comme sa feuille, c'était que la moitié du problème, je l'ai appelé l'hémiplégique. Bon. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fais mon texte. J'ai fait un texte. Je l'ai envoyé à tous les syndicats de producteurs indépendants. Je l'ai envoyé aussi à Alain Susfeld pour les gros. Le seul qui m'a répondu en me disant « ouvrons une discussion, une négociation », qui c'est? C'est le gros, c'est Susfeld. 2 mois après, j'arrive à un accord avec Susfeld. Je propose aux indépendants de s'y rallier. Ils avaient refusé de venir à la négociation. Ah, ils me disent non. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne pouvaient pas prendre des faux syndicats d'auteurs parce que moi, j'avais tout le monde. Alors, il n'y avait pas une seule organisation d'auteurs qui n'avait pas signé à mes côtés. Ils vont trouver le syndicat des agents artistiques. et signe un accord fictif avec les agents artistiques, qui ne les engageait à rien, parce que les agents, eux, ne voulaient pas non plus d'une forme de réglementation qui aurait encadré certaines pratiques. Moi, j'ai eu de la chance, parce que le gouvernement a nommé un médiateur. Ce médiateur est une personne de grande qualité qui s'appelle Roch-Olivier Mestre, et que, au bout de deux mois de médiation, les indépendants, qui se sont retrouvés à la table avec aussi les agents, et donc ils étaient un peu... ils avaient un peu plus terrorisé, ont finalement accepté un accord. Et ce qui est le plus drôle, c'est que l'accord qui a été signé à la fin est moins favorable aux producteurs et plus favorable aux auteurs que celui que moi j'avais signé. Parce que le représentant des gros producteurs à la Susfeld était meilleur négociateur que les représentants des indépendants. Donc voilà. Et donc cette histoire de convention collective m'a rappelé ce que moi-même j'avais vécu. Bon, alors maintenant, je pense que le boulot du gouvernement, c'est comme il y a deux conventions collectives, c'est de rapprocher les points de vue, d'augmenter le seuil des petits films qui est à 2,5 millions d'euros, peut-être le monter à 3 millions et demi d'euros, on trouvera une solution. Mais je ne trouve pas normal que des gens, en tant que producteurs, qui passent leur temps à réclamer aide et protection de l'État à l'égard des grandes chaînes de télévision, de l'Internet, des gros du cinéma, quand il s'agit de faire de la régulation avec ceux qui sont en dessous d'eux, et ceux dont ils sont les patrons, c'est-à-dire les salariés ou les auteurs quand ils les engagent, ne veulent aucune règle et pratiquent le capitalisme du 19e siècle. Et je dis en rigolant que s'ils pouvaient faire travailler les enfants, ils les feraient travailler. Voilà. Bon. Donc, c'est tout. J'estime qu'à partir du moment, et c'est logique, qu'il y ait de la régulation en faveur des producteurs face aux puissances que sont TF1, M6 ou même le service public, mais j'estime que le renvoi d'ascenseur légitime, c'est qu'il y ait aussi une régulation en faveur des salariés, des auteurs, et qu'il y ait des règles du jeu, et que dans les rapports entre le producteur et les techniciens, entre le producteur et les auteurs, ce ne soit pas la loi de la jungle. Voilà, c'est tout. Ben, j'en suis arrivé à la conclusion que la société Wild Bunch, Maraval, avait dans ses actionnaires un hedge fund basé au Wisconsin, et que les hedge funds, quand ils financent des sociétés, c'est pour avoir un retour d'investissement spéculatif, ce qui pouvait expliquer le fait qu'il ait une politique spéculative pour arracher la franchise Astérix à Pathé, qui avait été le distributeur d'Astérix et le coproducteur depuis le premier Astérix. Voilà, c'est tout. Les systèmes d'aide à la création et même en matière culturelle, ils sont acceptés par Bruxelles, mais Bruxelles a le pouvoir de vérifier qu'ils ne constituent pas des entorses aux règles de concurrence. Et dès que vous dépassez, il y a ce qu'on appelle à Bruxelles la règle de minimis, c'est-à-dire si les aides sont en dessous d'un certain montant, vous pouvez les créer sans les notifier à Bruxelles, mais dès qu'elles dépassent un certain montant, vous devez les notifier à Bruxelles. Alors, il y a des aides dans beaucoup de secteurs sont prohibées, vous n'avez même pas le droit de les faire. Dans le domaine culturel, vous avez le droit de les faire, mais simplement, Bruxelles a le pouvoir de vérifier qu'elle ne crée pas une entorse aux règles de concurrence. Voilà, c'est comme ça. Et tout simplement, et c'est lié au fait qu'on est en matière culturelle, mais dans le cinéma, on est aussi en matière de services. Voilà. Et qu'en plus, en ce qui concerne la taxe sur les opérateurs télécoms, on est dans un secteur qui est hyper réglementé. Et c'est d'ailleurs à ce titre de cette réglementation que Bruxelles a ouvert un contentieux contre la France sur la taxe qui est prélevée sur les opérateurs de télécommunications pour financer le service public de la télévision, taxe qui a été instituée au moment où Sarkozy a supprimé la publicité dans la journée pour France Télévisions. Pour compenser, on a créé une taxe sur les opérateurs de télécommunications. Et cette taxe est attaquée par la Commission européenne devant la Cour de justice. Nous ne sommes plus des pays libres et indépendants. Si vous menez une politique économique, vous avez vu ce qui est dans l'actualité, vous devez, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire sans demander des autorisations, des permissions. Alors voilà, c'est tout. Et là, par exemple, la négociation qui va être lancée entre l'Europe et les États-Unis, elle sera faite par le commissaire européen au commerce. Elle ne sera pas menée par les représentants des États. La Commission européenne a beaucoup de pouvoir. Et elle a un pouvoir autonome en matière de concurrence, puisque dès lors que les concentrations ou les problèmes de concurrence dépassent un certain niveau, ça bascule du pouvoir de l'autorité nationale de concurrence vers celui de la Commission européenne, qui a un pouvoir autonome en matière de concurrence. Le vrai problème et le vrai sujet, c'est que Bruxelles, c'est le fief des libéraux, et que les politiques de soutien à la création, de politiques de soutien à la culture, de politiques de soutien au cinéma sont le contraire de politiques libérales. Elles visent à contrecarrer les effets du marché. Bon, pour justement faire en sorte que les Américains ne soient pas dominateurs, faire en sorte que les gros films français ou américains laissent de la place à la diversité. C'est le contraire des politiques libérales. Alors quand vous défendez des politiques qui ne sont pas libérales, vous avez beaucoup de mal à les faire accepter par Bruxelles, où c'est le règne du marché unique, de la libre concurrence et de la libre circulation. Voilà. C'est tout. Il faut le savoir. Et que vous n'avez plus à la tête de la Commission européenne, il y a eu une période où il y avait ces principes, mais où quand vous aviez Jacques Delors à la tête de la politique de la Commission européenne, il avait une vision structurante de l'Europe avec des politiques économiques, des politiques culturelles. Maintenant, c'est le libre marché. Et c'est de la faute aussi des États, car les États n'ont plus voulu qu'il y ait des personnalités trop fortes à la tête de la Commission européenne. Voilà, bonne soirée.